Bien, je vous invite à ouvrir à nouveau la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Alors, pendant l'année scolaire, on est en train d'étudier Romains. Et pendant l'absence de certains, on est en train de regarder ce deuxième chapitre de Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, et on va lire à partir du verset 11 jusqu'à la fin du chapitre. Paul, au début du chapitre, a parlé de ce que nous étions par nature, séparés de Dieu, loin de Dieu, des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, par sa grâce, est intervenu. Et en nous unissant à Christ, il nous a ressuscités avec Christ. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec Christ. Il nous a donné cette vie nouvelle. Et tout cela par grâce. Et nous continuons au verset 11. « C'est pourquoi, vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu, en esprit. Et jusque-là, la parole de Dieu. Dans toute cette lettre, l'apôtre Paul répond à la question centrale, qu'est-ce qui fait qu'une personne est chrétienne? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui résulte? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est chrétien? Et Paul a répondu déjà à cela dans le chapitre 1er. Il commence par dire que le chrétien est quelqu'un de saint, c'est-à-dire séparé du monde, séparé pour Dieu. Il est saint par la foi en Jésus-Christ. Et quand il arrive à la fin du chapitre 1, il a dit que le chrétien est quelqu'un qui est aimé de Dieu, qui est pardonné par le sang de Jésus-Christ, qui est habité, qui est scellé par le Saint-Esprit. Au chapitre 2, il a rappelé que le chrétien est un pécheur par nature, mais qui est maintenant sauvé par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi en Jésus-Christ et pour la gloire de Dieu. Et maintenant, nous voulons voir une autre réponse à cette question dans les versets 17 et 18. Pour Paul, un chrétien est quelqu'un qui a la paix avec Dieu par le sang de Jésus-Christ. Il connaît cette paix de Dieu dans son cœur parce que, comme il le souligne au verset 14, c'est Christ qui est notre paix. Et Paul va donc expliquer cela, que cette paix que nous avons avec Dieu, cette paix que nous avons avec d'autres chrétiens, tout cela découle de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Verset 13, il a parlé de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, que Christ est mort, qu'il a versé son sang pour nous apporter la paix, pour nous apporter le pardon de nos péchés. Christ est ensuite ressuscité de la tombe, il est monté au ciel pour déverser sa paix dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et au verset 17, donc il souligne une autre chose. Christ est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Et c'est le premier point que nous voulons souligner. Christ est venu annoncer la paix. C'est une déclaration étonnante quand on regarde l'ordre des choses dans laquelle Paul écrit. On pourrait penser que Paul, quand il parle de Christ annonçant la paix, qu'il fait référence au ministère terrestre du Seigneur Jésus-Christ, quand il est allé dans différents endroits pour prêcher, pour accomplir des miracles, pour guérir. Mais l'ordre dans lequel Paul écrit ce paragraphe montre que Paul ne fait pas référence au ministère terrestre du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a d'abord parlé de la mort du Seigneur Jésus-Christ qui a versé son sang pour notre pardon des péchés. Ensuite, que Christ est ressuscité, qu'il est monté dans la gloire et que de là, il déverse son Saint-Esprit. Et ensuite, il parle que Christ annonce la paix. Et il annonce la paix à la fois à ceux qui étaient prêts, c'est-à-dire les Juifs, ceux qui avaient la révélation de Dieu, mais aussi aux non-Juifs, à ceux qui étaient loin. Et quand on lit les évangiles, on ne voit pas que le Seigneur Jésus-Christ est allé annoncer la bonne nouvelle aux non-Juifs. Paul ici est en train de parler du temps des apôtres, quand l'évangile est allé au-delà de Jérusalem, quand l'Esprit-Saint a inspiré l'écriture du Nouveau Testament, comme quand des hommes comme l'apôtre Paul et les autres apôtres, et même des personnes tout simplement, des chrétiens, sont partis de Jérusalem et ont parlé de l'Évangile, ont annoncé la bonne nouvelle. C'est la suite de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Il annonce la paix par le ministère des apôtres, le ministère des chrétiens. On voit cela, par exemple, dans le livre des Actes, chapitre 1er, verset 8, avant son ascension, le Seigneur Jésus-Christ s'adresse à ses disciples en leur disant « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, mais dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors ça commence à Jérusalem, mais ça va beaucoup plus loin, jusqu'aux extrémités de la terre. Quand les apôtres annonçaient l'Évangile, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui annonçait l'Évangile à travers eux. Quand ils ont écrit le Nouveau Testament, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui leur parlait, qui les inspirait par l'Esprit-Saint. Et c'est encore vrai aujourd'hui, d'une certaine manière, quand un prédicateur annonce fidèlement l'Évangile de Jésus-Christ, quand un chrétien témoigne fidèlement de l'Évangile, c'est Christ qui parle au travers de son serviteur. C'est Christ qui prêche, qui offre la paix aux pécheurs qui sont séparés de Dieu, qui offre la paix à ceux dont le cœur est brisé, qui offre la paix que ce monde ne connaît pas. Il annonce cette bonne nouvelle de la paix avec Dieu, la paix dans notre cœur, avec nous-mêmes, la paix avec les hommes, et tout cela par l'évangile de sa grâce. C'est une paix qu'il peut offrir parce qu'il a acquise cette paix. Il l'a acquise par son propre sang. C'est une paix qu'il peut donner par le moyen de l'Esprit-Saint qu'il envoie à tous ceux qui croient en lui. C'est une paix qu'il annonce à cause de sa miséricorde et de sa grâce qu'il nous manifeste. Christ est venu annoncer la paix à tous ceux qui étaient prêts et aussi ceux qui étaient loin. Et cela nous amène à une deuxième chose. C'est que Paul veut souligner, il veut que nous comprenions que le salut, notre relation avec Dieu, cette paix que le Seigneur Jésus-Christ est venu annoncer, il veut que nous comprenions que cela dans les termes de la Trinité. Il parle, deuxièmement, de l'accès que nous avons au Père. Et c'est quelque chose qui est bien spécifique à l'Évangile. Nous ne parlons pas de Dieu dans les termes abstraits. Nous parlons de Dieu dans les trois personnes de la Trinité. Quand on parle d'avoir une relation personnelle avec Dieu, on peut le dire à cause de ce que la Bible nous dit au sujet de ces personnes de la Trinité. Et il y a très peu de passages qui sont aussi clairs que ce verset 18. Car par lui, par Christ, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. La doctrine de la Trinité n'est pas un sujet réservé aux spécialistes sur lesquels ils peuvent débattre ou se creuser le cerveau. Non, la Trinité, c'est qui est Dieu. Voilà qui il est. Si nous voulons connaître Dieu, si nous voulons entrer en relation avec Dieu, nous devons le voir comme la Trinité. Beaucoup de chrétiens ou de personnes qui se disent chrétiennes ne pensent pas à Dieu dans ce sens. Beaucoup pensent à Jésus-Christ et leurs louanges sont adressées uniquement à Dieu le Fils. Leur salut n'est fondé que sur ce que Jésus a fait, sur ce que Jésus donne, mais ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus veut. D'autres chrétiens focalisent leur attention, toute leur attention sur l'Esprit Saint, sur la puissance de l'Esprit. Mais le Nouveau Testament souligne que notre relation est avec Dieu et le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et c'est également quelque chose qui est important aux yeux de l'apôtre Paul. Si on relisait le chapitre 1er, Paul a développé les bénédictions du salut dans les termes de la Trinité. Si nous voulons connaître et avoir les bénédictions qu'offre l'Évangile, nous devons connaître les trois personnes de la Trinité. Quand on commence au verset 3 du chapitre 1er, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » En lui, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il, le Père, nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien d'aimer. Et il continue. Dans le chapitre 2, verset 18, il applique cela à notre relation avec Dieu. Notre salut dépend et implique les trois personnes de la Trinité. Et en parlant ainsi, Paul va conclure son enseignement sur la paix qui est possible par le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, par Christ, nous avons accès auprès du Père. C'est-à-dire que Jésus est venu dans le monde, qu'il est mort sur la croix, non seulement pour que nous ayons une relation avec lui, avec le Seigneur Jésus-Christ, mais pour que nous entrions dans une relation d'amour avec le Père. Et on voit cela dans différents endroits, mais particulièrement dans cette prière qu'on appelle la prière sacerdotale, la prière du Seigneur Jésus-Christ pour son peuple avant sa crucifixion. En Jean 17, il dit au verset 4, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Et il va dire que cette œuvre était de révéler le Père, de ramener son peuple dans une relation avec le Père. De la même manière, en Jean 14, verset 6, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Et il répond à Thomas, qui avait demandé « Mais comment est-ce qu'on peut connaître le Père? Comment est-ce qu'on peut bénéficier de ses bénédictions ?» Il dit « Mais je suis le chemin, la vérité et la vie. » Le but, donc, du christianisme, c'est que des personnes qui étaient séparées de l'amour de Dieu viennent à connaître le Père, entre dans une relation d'amour avec lui, comme ses enfants bien-aimés, sont adoptés dans sa famille par l'œuvre de Dieu le Fils, le Seigneur Jésus-Christ, par le ministère de Dieu l'Esprit Saint. Et cela a un impact important dans nos vies. Trop de personnes voient le Seigneur Jésus-Christ d'un bon œil, mais il voit le Père comme étant une force menaçante, une force désapprobatrice, une force hostile. Et ces personnes, en résultat de cela, ne connaissent jamais la paix que le Seigneur Jésus-Christ est venu apporter. Alors on sait qu'on n'arrive pas à vivre selon les standards de Dieu. On sait que Dieu est saint, il est parfait, que nous ne sommes pas saints, que nous ne sommes pas parfaits. On ne prie pas comme on devrait prier. On ne s'est pas éloigné de nos péchés comme on devrait s'éloigner. Et donc on ressent une certaine distance entre nous. On se demande si les promesses de la Bible sont réellement pour nous parce qu'on n'arrive pas à la hauteur de ce qui est demandé. Et si on pense ainsi, l'évangile que le Seigneur Jésus-Christ annonce a deux choses à nous dire. La première, c'est que Jésus n'est pas venu pour amadouer un père réticent, un père grincheux, un père qui n'était pas disposé à nous regarder avec amour. Au contraire, c'est le Père qui a envoyé son Fils à cause de son amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En Éphésiens chapitre 1, verset 5, Paul dit que Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Si nous croyons aujourd'hui dans le Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons être sûrs que c'est Dieu le Père qui nous a aimés avant la fondation du monde, avant notre naissance. Il nous connaissait de nom. Il voulait que nous le connaissions, que nous connaissions son amour. C'est pour cela que Jésus est venu dans le monde. Pas pour persuader un Dieu réticent, un Dieu peu enclin, peu disposé. Non, mais pour servir un Dieu d'amour en prenant sur lui nos péchés, en éloignant nos péchés de nous, en faisant de nous les enfants de Dieu. Alors qu'en est-il de mon indignité? Qu'en est-il du fait que je ne prie pas comme je devrais le faire? Je n'arrive pas à la hauteur de ce qu'il me demande. Comment est-ce qu'un Dieu saint peut m'aider, peut m'aimer? Et c'est la deuxième chose que nous dit l'Évangile. C'est que tout ce qui devait se passer pour que Dieu le Père déverse son amour sur nous, tout a été accompli par le Seigneur Jésus-Christ. Tout a été accompli par le Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous devons être saints pour nous tenir devant la présence de Dieu. Mais Jésus-Christ a accompli toutes les demandes de la loi. Il a obtenu une justice parfaite qu'il va revêtir, dont il va revêtir tous ceux qui viennent à lui par la foi. Ils sont revêtus de cette justice parfaite, cette justice que Dieu le Père accepte. Et quelqu'un va dire, mon péché, ma culpabilité me rendent impur devant Dieu. Et je suis nerveux quand je pense à ce Dieu saint, ce Dieu pur, ce Dieu parfait. L'Évangile nous répond que le Seigneur Jésus-Christ a versé son sang pour nous laver une fois pour toutes, pour nous laver parfaitement. Nous avons lu ce verset 13. En Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et l'apôtre Jean va rajouter en 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Et quelqu'un va dire, mais je ne sais pas où mon cœur sera demain. Qui sait si je vais rester fidèle à Dieu? La lettre aux Hébreux nous rappelle que le Seigneur Jésus-Christ est maintenant, vit maintenant dans la gloire, qu'il règne, qu'il intercède pour nous, qu'il veille sur nous. Hébreux 7, verset 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Comprendre que l'œuvre de Jésus-Christ pour nous était d'accomplir le dessein d'amour de Dieu le Père. Cela va changer nos vies. Cela va chasser les ténèbres pour faire luire la lumière. C'est le docteur Martin Lloyd-Jones, ce pasteur gallois du siècle dernier, qui décrit cela de cette manière. Il dit, je ne suis plus rempli d'une crainte lâche de Dieu. Dieu n'est plus pour moi un tyran qui se cacherait avant de sauter sur moi pour me condamner et me pousser en enfer. Il est mon Père rempli d'amour, qui m'a aimé d'un amour éternel, d'un amour tel qu'il a poussé à envoyer son Fils unique pour mourir sur la croix à ma place. Quand je comprends cela, je suis en paix avec lui. Ce que le Seigneur Jésus-Christ veut, la raison pour laquelle il est venu dans ce monde, pour laquelle il est mort, la raison pour laquelle il règne aujourd'hui, c'est que nous nous approchions de Dieu le Père par lui. Il veut que nous connaissions cet amour du Père, cet amour qui remplit les besoins les plus profonds de nos cœurs. Qu'est-ce qu'on reçoit d'un Père? On reçoit une identité, on reçoit un nom. C'est ce que Dieu fait pour tous ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ. Dieu les accepte, il les prend, il les adopte dans sa famille, il les prend comme ses enfants, il les accepte dans sa présence, il va pourvoir à leurs besoins, il va les protéger, il va nous donner un avenir, un héritage éternel. Il prend soin de tous ceux qui viennent à lui par la foi en son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et Paul dit que tous les chrétiens, juifs et non-juifs, ont accès auprès du Père. C'est bien plus que simplement que Dieu est accessible. Non, mais Dieu nous invite dans son amour. Dieu prend plaisir à voir ses enfants parce qu'ils sont pardonnés en Christ. Ils sont revêtus de cette justice parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, si nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ, si nous appartenons à lui, nous ne devrions jamais craindre de nous approcher de Dieu, parce que en Christ, nous avons accès auprès du Père. Nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. C'est ce qui fait notre unité en Christ. Nous avons le même accès dans le même esprit. L'esprit ne veut pas qu'on se focalise sur lui. Quand le Seigneur Jésus-Christ a annoncé la venue de l'Esprit, il a dit que l'Esprit va le glorifier, le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ est glorifié quand des pécheurs viennent au Père par la foi. Notre salut, donc, est une œuvre combinée des trois personnes de la Trinité. Nous sommes sauvés parce que Dieu, notre Père, nous aime, parce que Dieu, le Fils, a acquis cet accès dans la présence du Père par la croix, et parce que Dieu, l'Esprit Saint, est à l'œuvre dans nos cœurs pour nous amener à Dieu. Nous sommes sauvés pour le Père, à travers le Fils, par le Saint-Esprit. Le troisième point, nous allons appliquer cela à la prière. Éphésiens 2, verset 18, est un des versets les plus importants au sujet de la prière. Il nous dit en quelque sorte comment la prière fonctionne. Beaucoup de personnes pensent que Dieu est trop occupé, que nos prières le dérangent. Et si on arrive à capter son attention, alors on doit faire face à une divinité qui est peu disposée. Et si Dieu arrive à répondre à nos prières, c'est parce qu'on a fait quelque chose pour lui avant, et qu'on a réussi à gagner sa faveur, et donc on est quitte. C'est un équilibre entre lui et nous. Et donc avec cela, pourquoi prier? Mais ce que Paul dit ici change notre point de vue non seulement sur Dieu, mais sur la prière. Oui, Dieu est grand, Dieu est majestueux, Dieu est tout-puissant, Dieu est trois fois saint, tellement pur et parfait, mais c'est aussi vrai qu'il nous connaît, c'est aussi vrai qu'il nous aime. Il n'a pas attendu quelque part, caché, pour que nous venions à lui. Non, c'est lui qui nous a envoyé son Fils dans le monde. C'est vrai que nos péchés nous condamnent, c'est vrai que le diable nous accuse. Mais le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, nous a lavés de nos péchés. Il a vaincu Satan à la croix. Il présente l'œuvre parfaite qu'il a accomplie pour nous au Père, ce Père qui est heureux de nous recevoir, de prendre soin de nous, de répondre à nos prières, de nous donner sa paix. Il nous donne la connaissance de la vérité. Il donne un nouveau cœur qui recherche à faire sa volonté. Il nous donne le courage de vivre dans ce monde. Il a préparé une place pour nous. Il nous garde pendant ce pèlerinage sur terre afin que nous arrivions jusque dans la gloire. Et si on pose la question, pourquoi Dieu répondra-t-il à nos prières? La réponse au verset 18, c'est parce que nous avons un accès auprès du Père. Nous avons un accès auprès du Père. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est à la droite du Père, délivre nos prières avec ses mains percées. C'est pour ça que nous prions au nom de Jésus. Nous demandons, si on peut utiliser l'image, à Jésus d'être le facteur qui va délivrer nos prières à Dieu. Et nous pouvons être certains que nos prières arriveront et seront reçues par le Père. Comment des personnes comme nous peuvent-elles prier et parler à Dieu de la bonne façon? Paul nous le dit, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Nous avons vu en Romains chapitre 8, les versets 26 et 27, quand Paul, parlant de la prière, nous dit que l'Esprit nous aide, qu'il met un peu d'ordre dans nos prières. Verset 26, Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Cela a donc fait une grande différence de savoir comment les trois personnes de la Trinité œuvrent ensemble pour nous aider à prier. Mais le plus important, ce que Paul nous dit, nous avons un Père céleste qui nous invite à prier. Il nous rappelle que nous avons un accès en Christ, un accès auprès du Père, Christ lui-même qui est notre Père. C'est pour ça que le Seigneur a enseigné à ses disciples le modèle de la prière en disant « Notre Père qui est aux cieux ». Voilà la relation que nous avons maintenant avec Dieu, si nous sommes à Christ. Il est notre Père. Nous avons la paix avec Dieu. Nous avons un accès à lui. Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure? C'est que la bonne nouvelle dont parle l'apôtre Paul est la meilleure bonne nouvelle que nous pourrons entendre. C'est une bonne nouvelle non seulement pour notre destinée éternelle, mais aussi pour la vie sur terre. Jésus est venu pour amener des pécheurs à Dieu, pour réconcilier des pécheurs à Dieu par son sang. Il est venu pour être notre Père. Il nous donne accès à l'amour de Dieu, le Père, par le sang qu'il a versé à la croix, par le ministère de l'Esprit Saint qu'il envoie dans nos cœurs. Ce n'est qu'en Jésus-Christ que l'on a la paix avec Dieu, que l'on a la paix dans notre cœur, que l'on peut connaître la paix les uns avec les autres. Ce n'est qu'en Jésus-Christ que nous pouvons avoir cette paix et connaître cette paix véritable. Nous devons réaliser que le Seigneur Jésus-Christ a tout accompli selon le dessein de Dieu le Père. Nous avons accès auprès de Dieu le Père. C'est une invitation permanente de vivre dans la présence même de Dieu le Père. Ne laissons pas les sentiments de culpabilité ou d'inaptitude nous garder loin de Dieu. Ces sentiments de culpabilité et d'inaptitude, au contraire, doivent nous rappeler combien précieux est le sang du Seigneur Jésus-Christ, combien étonnante est la grâce de Dieu qui nous attire à lui. Nous qui étions des enfants de colère comme les autres, nous qui étions loin, qui étions séparés de Dieu, nous avons été rapprochés, nous avons accès maintenant auprès du Père par le même Esprit. Pour citer le docteur Lloyd-Jones une deuxième fois, il dit ceci, « Le moment où vous réalisez que vous êtes justifié par Christ et revêtu de sa justice, vous pouvez vous approcher de Dieu avec confiance. Il est votre Père. Vous pouvez le prier comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. L'accès est dégagé. C'est un chemin nouveau et vivant qui a été ouvert. Vous êtes en paix avec Dieu. Et vous connaissez la paix de votre cœur. Vous avez trouvé le repos pour votre âme. L'apôtre Paul dit, Christ est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Que Dieu nous aide à comprendre ces réalités, qu'il nous aide à vivre cette merveilleuse réalité en Christ, d'avoir cette paix avec Dieu, cet accès dans la présence de Dieu. Et qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs ce matin. Amen.